RMC jusqu'à 8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera.
Il est 7h08 et un grand bonjour à vous qui venez peut-être d'arriver sur RMC. Installez-vous confortablement, votre radio marche bien. Vous êtes encore tranquillement sous la couette. Vous avez bien raison. Eh bien, sachez qu'en ce dimanche matin, jusqu'à 8h, c'est Laetitia Barlerin qui m'accompagne, notre vétérinaire, qui, comme tous les dimanches, répond à toutes vos questions. C'est un rendez-vous unique, hein, exclusif RMC. Hein, nous sommes la seule radio à vous proposer 2 heures dédiées aux animaux tous les dimanches matins, avec bien sûr vos questions, vos réactions sur les sujets qu'on évoque. Laetitia, tout à l'heure, on découvrira une nouvelle appli. Qui est disponible sur les smartphones, qui s'appelle SOS Pets.
Une appli indispensable en cas d'urgence, on va en parler. On parlera aussi de avoir ou pas une ruche dans son jardin. Est-ce que c'est une bonne idée?
Oui.
A priori, ça a l'air simple, mais justement, ça dépend un petit peu où vous êtes, parce que vous savez que les populations d'abeilles diminuent. Et puis, on parlera aussi de l'opération Adopter une perle noire, qui est organisée par le site Seconde Chance, parce qu'il faut savoir quand même que les chats et les chiens noirs attendent en moyenne 2 fois plus longtemps que les autres avant de trouver une famille.
Tout ça parce que...
Ils sont noirs.
Voilà, le noir est considéré en termes de superstition comme...
Voilà, des choses un petit peu ancrées en nous.
C'est dingue hein, quand voilà, même, hein, c'est fou dingue, ça. Oui. Alors qu'un chat ou un chien noir, c'est magnifique.
Oui, mais c'est marrant parce que ceux qui ont des chats noirs, après, ne jurent
sûr,
que par
évidemment.
Les chats noirs, c'est marrant.
Mais comme toujours. Mais pour débuter, Laetitia, on va s'intéresser aux loups en France. On va essayer de dresser un bilan.
Eh oui, parce que nous avons un changement de gouvernement. Donc voilà, un changement aussi de politique.
Est-ce que ça va changer quelque chose?
Ou pas. Donc nous sommes avec le docteur vétérinaire François Moutou, qui est président d'honneur de la Société française pour l'étude et la protection des mammifères. François, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai que c'est peut-être le moment de faire un bilan et le point sur ce dossier épineux qui est le loup en France, dont a hérité Nicolas Hulot, notre nouveau ministre de l'écologie. Alors d'abord, à combien est évaluée aujourd'hui la population de loups et où se cache-t-il? Parce que vous savez qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur le fait qu'il était aux portes de Paris. On en avait parlé il y a quelques semaines.
C'est vrai.
Alors, où se cache le loup en France?
Alors, les chiffres sont bien sûr compliqués à connaître parce que les loups ne vont pas se faire recenser comme ça dans les mairies régulièrement. Et donc, il faut faire des estimations. Il faut attendre l'hiver quand il y a la neige pour compter les traces. Et donc, évidemment, on aura des méthodes qui vont apporter une information avec une marge d'incertitude.
Oui.
En plus et en moins, on n'a pas de recensement parfait, complet. Et on attend là, ces jours-ci, l'estimation, parce que non seulement il faut recenser, mais après il faut calculer, c'est pas complètement évident, et on attend les chiffres pour la saison 2016-2017, et l'ordre de grandeur c'est à peu près 300, mais si on dit 300 pour la France entière, ça peut être avec 50 en plus, 50 en moins, et depuis quelques années il y avait une stabilité sur les estimations. On va voir cette année si on a encore une stabilité ou si on a peut-être un chiffre un peu plus haut que les 300 proposés les années passées.
Mais ce qu'on voit sur depuis qu'il est revenu tout seul en France, hein, quand même,
oui, c'est
bien précisé qu'il n'a pas été réintroduit, mais qu'il est revenu tout seul en passant par l'Italie, il colonise de plus en plus de territoires en France.
Alors c'est vrai que en tout cas, il y a parallèlement à l'augmentation du nombre, s'il y a une augmentation, l'augmentation du territoire. On n'a pas localement une densité qui augmente indéfiniment. Les loups vivent en famille. Et chaque famille a besoin de plusieurs centaines de kilomètres carrés. Et quand une famille est installée, les jeunes qui vont chercher un territoire pour faire eux-mêmes leur propre famille vont plus loin. Et donc, de proche en proche, les animaux peuvent avancer. Et comme ils sont venus effectivement d'Italie, l'essentiel se trouve dans les Alpes. C'est là qu'on a pratiquement les trois quarts de ce qui est connu. Et on a quelques loups un peu plus au nord dans les Vosges. On a quelques loups dans le Massif central. Quelques loups à l'est des Pyrénées. Et pour l'instant, tous ces animaux, d'après la génétique, on peut, à partir des crottes, sans même ramasser l'individu ou le prélever, on peut dire si génétiquement ce loup vient d'Italie ou viendrait d'Espagne. On n'a encore aucune preuve en France pour l'instant. Ou éventuellement, ce qui n'est pas impossible un jour, viendrait de Pologne par l'Allemagne. On a eu des cas au Danemark, en Belgique, aux Pays-Bas, de loups qui, eux, venaient plutôt de l'Est, de l'Allemagne.
Mais alors, le plus près de Paris, c'est combien?
Alors, les animaux peuvent faire des grandes distances, peuvent faire des grands déplacements. Ce qui a été dit sur la région parisienne d'Île-de-France n'est absolument pas confirmé. Ça pourrait arriver un jour d'avoir des traces de loups qui seraient passés par là. Les plus proches aujourd'hui ne sont pas à moins de 200 km vers l'est ou le sud-est de Paris.
D'accord. Alors, cette semaine, on a appris qu'un loup avait été abattu. C'est le 37e depuis le 1er juillet de l'année dernière.
Oui.
Alors, on sait que bien que l'espèce soit protégée, donc normalement on n'a pas le droit de le tuer, l'ex-ministre de l'écologie Ségolène Royal a signé des arrêtés autorisant prélèvements, comme ils disent, enfin une chasse au loup, on va dire, avec un quota maximum à atteindre. Alors, expliquez-nous comment, dans quelles conditions les loups peuvent être tués aujourd'hui. N'importe qui ne peut pas les tuer non plus.
Absolument. Donc c'est une espèce qui est protégée au niveau européen comme au niveau national. Et on a un plan loup qui commence tous les ans, donc, mais qui démarre le 1er juillet jusqu'au 30 juin. Et donc actuellement, donc, on est toujours sur le plan loup qui avait été décidé en 2016 et qui va aller jusqu'au 30 juin 2017. Et on verra le nouveau plan qui sera proposé par ce nouveau gouvernement pour l'année qui vient à partir du 1er juillet prochain. Alors, on ne parle pas vraiment de quota. Quota, c'est un chiffre à obtenir coûte que coûte. On parle de plafond, le maximum d'animaux qui peut être prélevé, sachant que dans les textes européens comme nationaux, une espèce protégée ne peut pas être chassée et détruite, sauf dérogation. Et il y a un certain nombre de critères qui sont listés, si elle menace une personne, s'il y a des enjeux économiques très forts. Et
là, c'est des enjeux économiques.
Tout à fait. Là, c'est vraiment par rapport à l'élevage ovin, sachant que ces abattages, donc ces prélèvements, ne sont autorisés que si d'autres méthodes de prévention, de protection des troupeaux n'ont pas été efficaces, parce que on ne peut pas non plus prélever un animal d'une espèce protégée sans contrepartie. Et on demande aux troupeaux exposés que les responsables, les propriétaires, les éleveurs, les bergers, soit gardent les troupeaux, ce qui n'est pas toujours le cas, soit mettent des chiens de protection, ce qui n'est pas toujours le cas,
clôtures
et des systèmes de parcage le soir avec une clôture qui protège les moutons. Et ce qui est dommage, c'est qu'on dérive dans un schéma qu'on peut comprendre. Il y a des problèmes localement identifiés.
Parce que c'est une solution, c'est une décision un peu extrême de fait de tuer un animal protégé.
Bien sûr.
Mais on arrive à
des abattages. Moi, j'ai envie de dire que certains d'entre eux ont été faits dans des conditions qui n'avaient. Il n'y avait plus de moutons dans les alpages. On a tué des loups en montagne, il n'y avait plus de moutons dans les montagnes. Et c'était presque des abattages politiques. Alors, pour cette fameuse paix sociale qui peut coûter cher pour une espèce protégée. Et c'est pas très satisfaisant parce que, et ça a été étudié, ça a été démontré, il y a quand même des informations qui vont dans ce sens-là. Quand on tue un loup, puisqu'on le tue souvent de façon aléatoire par rapport aux attaques, on n'est pas au moment de l'attaque sur un troupeau, mais quand un loup est en ligne de mire, il est tué. Ça peut être un mâle dominant, une femelle dominante qui dirige une famille, une meute. Si on tue cet animal, la famille éclate et tous les individus vont chercher un nouveau territoire pour s'installer et vont aller causer des dégâts dans des troupeaux potentiellement, dans des endroits où ils n'auraient jamais été sinon. Et on a le paradoxe d'augmenter potentiellement les dégâts en tuant plus de loups.
Ça veut dire que plus on tue les loups, plus on éclate les meutes et plus on augmente les attaques
envers les moutons. Si parallèlement on n'a pas sincèrement de protection, on arrive au résultat contraire de ce qui est recherché.
Bah alors quelle est la solution? Parce qu'il y a quand même un problème de cohabitation entre les moutons et les loups. Alors tuer les loups, a priori, ben ça sert à rien, d'autant plus qu'il est protégé. Est-ce que les mesures de protection des troupeaux sont efficaces?
Ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment, il y a des expériences qui viennent d'autres pays que la France, et la France n'est pas forcément un pays particulier par rapport à
tout. On a l'impression que le problème loup, c'est typiquement français, qu'il y a plus de loups en Italie et en Espagne.
Absolument, et depuis très longtemps. Alors il y a toujours une histoire culturelle qui peut expliquer beaucoup de choses. Chez nous, c'est plutôt les chaperons rouges et les grands-mères. En Italie, c'est plutôt Romulus et Rémus, et ça fait une vraie grande différence. Quand les fondateurs mythiques de la capitale du pays ont été élevés par une louve, forcément dans l'histoire, dans la culture, l'animal n'est pas vu de la même façon. Il y a quand même des loups qui sont braconnés en Italie, ne soyons pas naïfs non plus. Hein. Mais si on connaît, enfin, les éleveurs de moutons connaissent aussi les problèmes sanitaires, qui connaissent d'autres problèmes, et on sait bien qu'on peut prendre des mesures de protection, de prévention, il y a des vaccinations, il y a des gestes hygiéniques, et par rapport à ces maladies, les éleveurs savent que plus ils prendront ces mesures, moins ils auront de problèmes, mais c'est jamais du 100%. C'est exactement la même chose avec les problèmes posés par le loup. Et on est tous d'accord pour dire qu'on n'aura jamais 100% de protection, même si on prend des mesures tout à fait rationnelles et raisonnables et honnêtes. Et puis, il y a des cas où on aura des difficultés liées au terrain, liées peut-être à des loups qui sont particulièrement astucieux. Mais ça, c'est ponctuel. Et on n'aurait pas les dégâts annoncés avec ces situations-là si toutes ces mesures étaient prises. Sachant que, je dis encore une chose, on attribue des dégâts au loup. C'est très rare qu'on puisse confirmer, affirmer, être sûr que c'est bien le loup qui a tué une brebis. Et donc, dans les dégâts qui sont annoncés, il y a toujours un petit doute quand même.
Et le doute, dans le doute, c'est vrai qu'on rembourse quand même
Et donc, le doute est fait pour couvrir des situations qu'on ne peut pas prouver. Et dans ces conditions, on a les indemnités correspondant aux dégâts liés à l'espèce protégée.
François Moutour, vous restez avec nous, on revient dans un instant. On va évoquer aussi l'actualité brûlante de cette semaine avec la nomination de Nicolas Hulot au ministère de l'écologie, l'environnement. Est-ce que ça va changer quelque chose sur cette situation? On en parle dans un instant. Le 3216, animaux@rmc.fr, où vous pouvez aussi nous joindre via l'appli Direct Studio sur votre smartphone, iOS ou Android. À tout de suite.
RMC 6h-8h, vos animaux. RMC jusqu'à 8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h20, le week-end des experts, les animaux. Merci d'être là et bon dimanche à vous qui venez peut-être de nous rejoindre. Dans quelques minutes, on retrouvera la météo et les infos. Notez que tout à l'heure, on vous fera découvrir une appli a été développée pour les cas d'urgence avec votre animal de compagnie. On en parlera dans quelques instants. On découvrira aussi les ruches. Est-ce qu'on peut installer une ruche dans son jardin? On verra ça là aussi dans quelques instants. Mais pour l'heure, Laetitia, nous sommes avec François Moutou, membre de la Société française pour l'étude de la protection des mammifères. Et on évoque le loup avec lui.
Et oui, un dossier épineux aussi pour le nouveau ministre de l'écologie, Nicolas Hulot. Alors, qu'attendent les associations de protection de la nature de Nicolas Hulot concernant la gestion du loup?
Eh bien, ce qu'on espère vraiment, et on est tout à fait conscient que c'est un sujet compliqué, il y a vraiment déjà un passé, un passif, je ne sais pas comment dire, par rapport au gouvernement précédent. Et ce qu'on aimerait, c'est qu'on puisse vraiment rediscuter, honnêtement, entre les différents partenaires. Il se trouve que depuis pas mal d'années, et tous ces derniers mois, les associations avaient beaucoup de mal à être reçues par le ministère pour discuter aimablement, gentiment, citoyennement, je ne sais pas quel mot employer, avec les représentants de l'administration pour discuter sur le plan loup autrement que simplement sur un chiffre de loups à abattre, ce qui devient insupportable pour une association de protection. La seule discussion possible, c'est est-ce qu'on autorise 35, 36, 38 ou 40. C'est vraiment pas intéressant. S'il n'y a pas en face aussi des discussions sur les mesures de protection, sur leur amélioration, sur des réflexions communes qu'on peut avoir avec les partenaires qui représentent le monde de l'élevage, l'administration et les associations, c'est vraiment extrêmement frustrant. Et donc, simplement, une des premières choses, ce serait pouvoir en rediscuter. Et comme ça a été fait il y a assez longtemps, parce qu'en fait, les questions sont techniques, elles ne sont pas politiques. Le loup, il n'est pas d'un parti politique ou d'un autre. Il peut effectivement attaquer des troupeaux, même si sa nourriture, essentiellement, ce sont des animaux sauvages. Et donc, c'est simplement pouvoir en discuter. Et avec les problèmes techniques posés par l'élevage et sa cohabitation, les associations peuvent aussi apporter des éléments de réflexion, de réponse, simplement qu'on puisse discuter, sachant qu'un ministère de l'écologie, c'est quand même pas tout à fait comme un ministère de l'agriculture, qui existe aussi bien sûr, et donc on espérait aussi de ce ministère une position qui ne soit pas la même complètement que celle de l'agriculture.
Merci beaucoup François.
Merci, on va voir justement le plan loup, ce qui va être mis en place avec ce nouveau gouvernement.
On va suivre ça de près. 7h22, c'est RMC. Laetitia, on va parler maintenant de nos animaux noirs, c'est-à-dire les chats ou les chiens, qui visiblement ont moins la cote que les animaux d'autres couleurs.
Et oui, ils ont plus de mal à trouver une famille d'adoption. Et nous sommes avec Florence Lepage, qui est fondatrice du site Seconde Chance et qui a fondé cette opération qui s'appelle Adopter une perle noire. Florence, bonjour.
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 Alors, d'abord, parlons du site secondechance.org qui a 10 ans cette année quand même. Présentez-nous ce site qui est quand même assez particulier.
Oui, c'est un site assez particulier parce que l'Internet n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Notamment, il n'y avait pas Facebook que les associations ont massivement pris d'assaut et tant mieux pour présenter leurs animaux et parler d'elles. Et finalement, les associations, elles étaient très peu sur Internet parce que c'était difficile de faire un site, de l'animer, de mettre les animaux, etc. Et donc, c'est là qu'on a décidé de faire un site qui permettrait à toutes les associations de protection animale et exclusivement elles, de mettre leurs animaux en avant. Avec un petit outil de recherche qui va vous permettre de chercher l'animal qui vous plaît, dont vous avez envie. Parce
oui.
que c'est aussi un coup de cœur, un animal. Il y a des gens qui vont vouloir avoir une espèce en particulier.
C'est un peu comme un site de rencontre.
Un peu comme un site de rencontre. Voilà.
Alors, vous avez tous les animaux.
Chez vous,
voilà. Parce qu'il y a
souvent.
Plus de 20 000 animaux qui sont proposés à l'adoption sur votre site.
Voilà, parce qu'on a 1240 refuges et associations qui viennent l'alimenter régulièrement. En animaux. Donc en fait, on est juste une plateforme de mise en relation. Nous-mêmes, on n'est pas une association de protection animale, on n'a pas nous-mêmes d'animaux. Nous, c'est vraiment un outil pour les internautes et pour les associations. Et surtout aussi, c'était pour que les internautes soient sur un site où ils sont sûrs qu'il n'y a que des animaux dans des refuges et pas des particuliers.
Voilà.
C'est une bataille depuis longtemps de la protection animale, hein, les petites annonces entre particuliers. Donc c'était vraiment mettre en avant les associations. Et là, effectivement, c'est les 10 ans. Et cette année, c'est pas encore le cas, mais pour la rentrée, on va avoir un beau site tout neuf qu'on pourra facilement regarder sur un mobile, puisque maintenant les gens vont surtout sur Internet avec un mobile.
Et oui.
Donc
et
on est en train de préparer une grande refonte du site.
Parfait.
Après 10 ans.
Alors là, vous proposez une opération qui s'appelle Adopter une perle noire. Ça veut dire que parce que les chiens et les chats noirs, parce qu'ils sont noirs, sont moins adoptés, c'est ça ?
Eh bien oui. Ça peut paraître incroyable, mais en plus, c'est un phénomène que français. C'est un phénomène, c'est la même chose en Amérique du Nord, c'est la même chose en Angleterre.
Qui ont aussi leur opération perle noire.
Oui, qui ont aussi généralement leur opération perle noire ou qui en parlent. Les animaux noirs sont moins adoptés dans les refuges.
Alors, c'est dû à quoi?
Eh ben alors, en France, on se dit que c'est, et en Amérique du Nord, on se dit que c'est parce que les chats noirs portent malheur. Mais en Angleterre, ils sont censés porter bonheur. Alors, c'est un petit peu surprenant.
Eh oui, c'est bizarre.
Et puis les chiens noirs. Alors les chiens noirs, c'est plus parce que généralement ils font un peu peur. Gros chien noir, on se dit que ça fait plus peur qu'un gros chien d'une autre couleur.
Mais c'est vrai que par exemple les bergers allemands, à un moment, il y avait toutes des lignées de bergers allemands, ce qu'on appelle au masque noir, la tête bien noire pour faire des chiens de défense. Parce qu'on se dit que voilà, les chiens quand ils ont un masque noir, et ben ils font plus peur qu'un chien.
C'est dingue ça.
C'est fou ça.
Oui. Alors il y a ça. Et puis après on dit que peut-être c'est vrai que les animaux noirs ils sont parfois moins photogéniques, on les voit moins finalement dans les refuges, on voit moins les traits.
Et oui, c'est vrai
qu'un animal qui va avoir une couleur vraiment particulière ou des taches particulières, il va attirer l'attention, alors qu'un animal qui finalement est uni. Noir, et ben, enfin, écoutez, c'est très difficile à expliquer. Et quand vous en parlez aux responsables d'associations, je sais, à côté de chez moi, quand il y a trouvé une portée de chaton, elle disait, oh là là, puis c'est des noirs, ça va être difficile.
Alors, regardez, Florence, nous avons Sophie avec nous qui veut témoigner ce matin. Bonjour Sophie.
Très bien.
Oui, bonjour.
Bonjour Sophie.
Bienvenue.
Bienvenue. Alors, est-ce que vous avez des animaux noirs chez vous?
Oui, moi j'en ai deux. J'ai un chat et une chienne.
Ah.
Et donc Jasmine, la chienne, je l'ai adoptée au refuge.
Oui.
Parce que j'avais un chien qui s'ennuyait tout seul, donc j'ai été au refuge et je me suis pas occupée de ce que c'était comme chien, comme couleur, la race, peu importe. Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un chien qui s'entendait bien avec déjà mon autre chien.
Ouais.
Et donc on a adopté Jasmine, qui est noire, qui a des yeux jaunes. Alors C'est pas commode, hein, parce que ça serait pas la mienne, je m'en méfierais. Mais qui est gentille, mais gentille, mais qui nous donne de l'amour.
Bah oui, parce que c'est pas la couleur de.
Pour se faire aimer, pour se faire apprécier.
Et ça faisait longtemps qu'elle attendait quelqu'un en refuge.
Ouais, plusieurs mois.
Et vous avez aussi un chat noir.
Oui, j'ai aussi un chat noir. Alors, qui ne porte pas malheur. ça arrive qu'il passe sous des échafaudages, des échelles, et je vois pas de météorites tomber dans le jardin.
D'accord, tout va bien, donc voilà, ça va.
Et tout va bien. Et qui est gentil comme tout, on l'appelle le poulpe, parce que son délire, c'est de, quand on est couché, de venir sur le crâne, et puis de, avec ses patounes, de tricoter les cheveux, il nous bave dessus comme un gorille. Mais,
c'est trop mignon.
Voilà, quoi, c'est. Il n'y a pas de problème avec ces animaux-là. Ils sont pas plus méchants, ils sont pas.
Oui. Mais c'est une idée qu'on se fait.
Évidemment,
hein.
On a bien compris. Merci pour ce témoignage, Sophie.
Merci,
voilà.
Sophie.
Un chat et un chien.
Voilà.
Noir, chez Sophie.
Ce sont des perles noires.
Voilà, racontez-nous, tiens, si tout comme Sophie, vous avez des animaux de couleur noire. Et voilà, comment vous avez fait pour les trouver? Est-ce que vous les avez adoptés? Est-ce que ça faisait longtemps qu'ils étaient justement dans ces refuges? Vous pouvez nous dire tout ça 3216 animaux@rmc.fr ou via l'appli RMC sur smartphone et direct studio. À tout de suite.
Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, Vos animaux sur RMC.
Laetitia Barlerin, attention, c'est l'heure de la question flash. Est-ce que vous êtes prête à répondre
prête
à la question de Jean?
Jean.
En moins de deux minutes, hein, je pense faire moi-même les repas de mon teckel de 1 an et demi qui pèse 7 kilos, Laetitia.
Oui.
Un tiers de viande, un tiers de riz et un tiers de légumes. Est-ce bien et quelle quantité donner chaque jour?
Alors, un tiers de viande, un tiers de riz, un tiers de légumes, ça c'est ce qu'on disait il y a 30 ans.
Oh!
C'était pour simplifier un petit peu. Alors, c'est très bien de faire son repas soi-même. Mais il faut savoir, d'abord, concernant ce qu'on met dans la gamelle de son chien, il faut certes de la viande, certes des légumes verts cuits pour apporter des fibres, certes un peu de riz ou de pâtes pour donner de l'énergie, mais il faut en plus de l'huile végétale, de l'huile de colza ou de l'huile de soja pour les acides gras essentiels,
oui.
Et très important, complété par un complément minéral et vitaminé, parce que tout ça, ça manque un petit peu de calcium, de vitamines et d'oligo-éléments. Donc, vous voyez, c'est...
Oui.
Alors, concernant les quantités, ça dépend du chien, ça dépend de sa race, ça dépend de son poids, ça dépend s'il est stérilisé ou pas, ça dépend s'il est en surpoids ou pas, ça dépend s'il est actif ou s'il est plutôt sédentaire, voire canapé, vous voyez. Donc, tout ça, ce sont des paramètres qu'il faut connaître pour faire une formulation d'un repas. Et il n'y a que votre vétérinaire qui pourra le faire. On a des tableaux, etc. Il va vous sortir tout ça. Il va vous dire tant de quantité de viande par
bien
jour,
sûr.
Tant de légumes.
Oui, parce que tout ça est très scientifique.
C'est
hein.
très scientifique, c'est très bien précis. Et il vous donnera en plus ce complément minéral et vitaminé qu'il faudra donner en plus. Et tous les jours, il faudra peser la viande, cuire les légumes, le riz éventuellement. Voilà. Par exemple, si vous voulez qu'il ne grossisse pas, il faudra me donner plus de fibres et donc de légumes verts que de riz, par exemple.
Oui, hein,
voilà, bien sûr. Et beaucoup plus de viande. Donc non, pas un tiers, ça serait trop simple, voyons.
Voilà, et 32-16 pour toutes vos questions, on vous attend les amis.
RMC, c'est au 32-16, 45 centimes la minute, et au 7-32-16, 65 centimes par envoi, plus près du SMS. RMC jusqu'à 8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Merci d'être là, le week-end des experts, chaque samedi et dimanche, vous le savez, sur RMC 6h-10h. Nous passons la matinée ensemble avec nos quatre experts, hein, le jardin, la maison, le samedi. Tout à l'heure, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau qui me rejoint donc dans une petite trentaine de minutes. Avec lui, on retrouvera l'essai de la semaine, ce sera la Golf GTI. Peut-on être verbalisé pour circulation dans un sens interdit avec mention « sauf riverain » ? C'est vrai qu'on voit parfois ces panneaux, on ne sait pas trop quoi faire.
Oui, c'est vrai.
Et on évoquera
mais
aussi...
Mais moi, je suis riverain partout, moi.
C'est vrai. Non, mais c'est ça qui est bien avec Laetitia, c'est qu'elle est partout chez elle. C'est bien, mais attendez, c'est
là,
plutôt cool.
On dit, mais vous êtes du coin? Mais oui, j'habite là.
Là, regardez.
Voyez.
Je ne connais pas le nom de la rue, mais je suis là. On parlera de l'obsolescence programmée des pneumatiques. Il y a une polémique en ce moment qui est assez intéressante. On évoquera le point de vue de Michelin, qui est un grand constructeur de pneumatiques. Et puis, tout à l'heure, on s'intéressera à la Renault Zoé, qui revient avec un modèle d'occasion. à l'excellent rapport qualité-prix. En tout cas, on essaiera de voir si c'est le cas avec Jean-Luc et nos invités. Puis bien sûr, vos questions au 32-16. Laetitia, tout à l'heure, nous allons évoquer une appli mobile qui est disponible pour votre smartphone et qui est là, qui réagira en cas d'urgence. Si vous avez un souci avec votre animal de compagnie, vous pourrez vous en servir. On verra ça dans quelques instants, mais dans l'immédiat, on va s'intéresser aux abeilles et aux ruches.
Alors, je sais pas si vous avez eu l'idée un jour d'avoir, je sais pas, une ruche chez vous.
Alors
peut-être pas dans la maison, hein.
La terrasse, je sais pas trop.
Eh ben oui,
est-ce qu'il y a un risque, tiens?
On va en savoir plus avec Patricia Becher, qui est auteure de Je veux une ruche, tout simplement, aux éditions Larousse. Patricia, bonjour.
Bonjour.
Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes l'auteur de Je veux une ruche, qui s'adresse aux apprentis apiculteurs, un petit peu comme François, qui aimeraient avoir une ruche dans leur jardin. Alors, c'est un sentiment louable quand on sait que l'apiculture, les abeilles, qu'elles soient domestiques ou sauvages, sont réellement en danger en France.
Oui. D'ailleurs, je voulais préciser que j'avais écrit « Je veux des abeilles » et que pour une raison qui m'est inconnue, parce qu'il ne m'a pas demandé mon avis, l'éditeur a transformé le titre en « Je veux une ruche ». Et moi, c'est bien des abeilles que je veux, c'est-à-dire non seulement des abeilles domestiques dans des ruches, mais aussi toutes ces abeilles sauvages qui permettent notamment à l'agriculture de nous nourrir.
Bien sûr.
Parce que 75% des plantes alimentaires ont besoin d'être fécondées par des abeilles. Et il y a beaucoup d'insectes, et pas toujours des insectes, semblables aux abeilles, qui sont des abeilles, en fait.
Et alors, on sait qu'on en avait parlé il y a quelques mois, par exemple, la production de miel a fortement chuté l'été dernier.
Enfin, ça fait une dizaine d'années que ça dure, et moi je suis un petit peu chagrinée par la réédition de ce livre que j'avais écrit il y a 7-8 ans, qui donc est sorti sans mon assentiment.
Qui était beaucoup plus optimiste.
Qui était beaucoup plus optimiste parce qu'à l'époque...
Autre le fait que vous n'êtes pas au courant de la sortie de ce livre, ce que vous voulez aussi dire, c'est que c'est bien de vouloir avoir des abeilles ou une ruche dans son jardin. Le problème, c'est savoir ce qu'il y a autour. Parce qu'il y a beaucoup de pesticides, parce qu'il faut parler des pesticides qui ont causé la mort des abeilles.
Et les abeilles butinent, en fait, autour de leur ruche, en fait.
Oui, jusqu'à parfois 1 kilomètre, voire 2 kilomètres, quand elles ont faim, elles peuvent aller très très loin.
D'accord.
Et c'est là que se pose le problème de l'environnement de la ruche. Et c'est pour ça aussi que c'est finalement plus facile d'avoir une ruche en ville aujourd'hui qu'à la campagne, quoi.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un jardin avec des fleurs, par exemple des rosiers ou je sais pas, ça suffit pas pour une ruche même.
Ça suffit pas parce que j'ai oublié le chiffre, je crois que c'est 20 000 abeilles qu'il y a dans une seule ruche.
Oui.
On va prendre le modèle standard qu'on trouve partout, la petite ruche carrée à 100 euros là. Il y a à peu près 20 000 abeilles dedans, donc il faut les nourrir. En cette saison, elles sont en plein travail. Donc, il faut bien 1 hectare pour les nourrir correctement.
Ça dépend pas seulement de son jardin, ça dépend de ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que si on est à la campagne et qu'il y a beaucoup de cultures autour... C'est pas forcément l'idéal, c'est ça?
C'est pas forcément bon pour elle. Par exemple, moi j'habite dans une région où il y a beaucoup de vergers qui sont pas du tout en bio. Et ça, c'est désastreux pour les abeilles.
C'est-à-dire que comme les agriculteurs, enfin les cultivateurs traitent, les abeilles viennent butiner et puis quoi, meurent, en fait, c'est ça?
Oui, alors ce qui est rosse, c'est que parfois elles ne meurent pas tout de suite.
Oui.
D'accord.
Ça peut aussi affaiblir la ruche.
C'est en consommant leur pollen qu'elles périssent parce qu'il est pollué par les insecticides.
D'accord.
Est-ce qu'il vaut mieux habiter on a dit en ville.
Mais finalement, on habite en ville, dans une grande ville à côté d'un parc. C'est pas mal, finalement.
C'est bien mieux, hein.
Mais
une grande ville, c'est-à-dire Nantes, Lille, Paris, Marseille, vous voyez. Parce que si c'est une petite ville de, 30 000 habitants, encerclé par les cultures, ça risque aussi de causer des
problèmes. Et comment ça se passe? Je veux dire, il faut quand même malgré tout un jardin d'une taille minimum quand même pour accueillir une ruche.
Distance, non, par rapport aux habitations?
Alors, il n'y a pas de limite si votre balcon, votre terrasse même est entourée de palissades. Hein. Vous pouvez avoir une ruche en copropriété, par exemple. Mais le problème, c'est juste qu'elles trouvent à manger. Alors, en ville, elles vont aller se balader dans un rayon d'un kilomètre. Et comme il y a beaucoup de parcs avec des arbres qui fleurissent...
Oui.
Parce qu'on n'y pense pas, mais le pollen des arbres est très intéressant pour elles. Donc ça va aller.
D'autant plus que les villes maintenant se mettent au bio, on va dire, en traitement dans les parcs.
Les villes ont été obligées, grâce à Ségolène Royal, d'ailleurs moi je la remercie, parce que en décembre dernier, elle a fait passer une loi qui interdit désormais l'usage
de pesticides
dans tous les lieux publics. Et ça va, les jardins vont suivre. Mmh. J'espère que l'agriculture suivra, mais j'y crois pas trop.
Non, mais faut pas être pessimiste.
Et si par exemple on a un petit jardin, est-ce que on peut leur faciliter la tâche en cultivant certaines fleurs, par exemple, qu'elles apprécient plus que d'autres?
Bien sûr, mais il faut en cultiver beaucoup.
Alors, oui.
En ce moment, par exemple, ça va parce que vous avez énormément de choses qui sont fleuries.
Oui.
Par exemple, moi j'ai des rosiers simples, elles adorent butiner ces rosiers à fleurs simples. Avec les roses à fleurs doubles, elles ont un peu plus de mal. Mais il y a aussi toute une foultitude de fleurs, par exemple la coriandre, la roquette, toutes les lavandes, vous voyez, toutes ces plantes aromatiques méditerranéennes, elles adorent butiner ça, tout ça c'est en fleurs. La période la plus critique, c'est celle qui va survenir en été.
Parce qu'il y a moins de fleurs.
Juillet, août. Là, elles vont manquer de floraison parce que la majorité des cultures sont des grandes cultures genre maïs, sur lesquelles elles vont pas beaucoup. Il y a encore le tournesol, mais malheureusement, le tournesol étant traité avec un insecticide qui les tue, on revient au problème.
Oui.
Donc, moi, je connais par exemple des apiculteurs qui cultivent de la chicorée.
Ah oui.
Ah oui, d'accord.
C'est très très beau, la chicorée, c'est bleu, d'un bleu radieux, le vrai bleu ciel, quoi.
Mm-hmm.
Et ça, c'est excellent pour les abeilles, parce que c'est fleuri pendant tout l'été, vous voyez.
D'accord, il y a peut-être aussi les coquelicots, non, qui...
Oui, mais les coquelicots...
Moins en moins.
Mon cher, c'est juin-juillet, et après c'est fini.
Ah oui.
Il y a un cousin du coquelicot qu'elles aiment beaucoup, c'est le cosmos à fleurs dorées.
D'accord.
Le doré, hein, le rose, elles vont pas du tout dessus.
D'accord.
Mais le cosmos doré qui pousse très facilement, qui demande pas grand chose pour grandir et qui se ressème volontiers, comme la chicorée d'ailleurs. Et ça va bien ensemble, hein, le doré et le bleu, ça va très bien ensemble.
Patricia,
ça, c'est bon pour les abeilles.
Est-ce qu'il y a un risque, malgré tout, pour le voisinage, d'avoir une ruche à proximité? Est-ce que, statistiquement, il y a plus d'abeilles autour?
On a peur des ruches.
Oui, alors. Ce qu'il y a, c'est que les abeilles n'aiment pas la précipitation. Parce que quand on marche vite, ça fait vibrer le sol, et puis ça fait une espèce de courant d'air. Elles n'aiment pas ça. Donc, quelqu'un qui est agité, c'est vrai qu'il a plus de risque de se faire piquer que quelqu'un qui est calme. Et elles n'aiment pas trop quand on stationne à côté de leur ruche. Moi, en préparant ce livre, j'étais fait sauvagement piquer. J'ai dû porter un chador pendant une semaine. c'était vraiment vilain. Hein. Cela dit, si on se fait piquer, une petite goutte d'huile essentielle de lavande...
Et ça règle le problème.
C'est fini, ça fait plus mal. Hein.
D'accord, donc il faut les respecter.
Il faut être calme, il faut pas aller être indiscret avec elles. Il
ne
faut pas tout le temps aller regarder ce qu'elles font.
En revanche, elles ne viendront pas nous attaquer comme ça délibérément pas les embêter, en fait.
Non. Même quand un essaim s'en va, vous savez, au printemps, quand la ruche est trop nombreuse... La vieille reine, en général, s'en va avec une petite équipe en quête d'une nouvelle ruche.
D'accord.
Et donc, vous avez d'énormes grappes d'insectes qui font très peur parce que c'est vrai qu'elles sont capables de s'installer dans la cheminée ou sous le toit. Elles aiment bien les petits endroits un peu cachés comme ça.
Oui.
Et puis, ça fait un bruit assez impressionnant.
C'est vrai.
Mais en fait, il y a pas de danger réellement. Et puis, c'est très facile de recueillir un essaim aussi.
D'accord.
Il ne faut pas avoir peur.
Patricia, vous restez avec nous. Dans un instant, nous aurons Baptiste au 3216 qui est agriculteur.
Et en direct de son tracteur.
Il est en direct de son tracteur et il veut sensibiliser justement et bien tous ceux qui nous écoutent concernant justement les abeilles. On en parle dans un instant. Il est 8h moins le quart, c'était RMC, c'est le week-end des experts, les animaux. À tout de suite.
RMC, 6h-8h, vos animaux. RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h47, c'est le week-end des experts, les animaux, et on parle des abeilles et des ruches ce matin avec Patricia Becher, qui est auteure de Je veux une ruche, paru aux éditions Larousse. Et nous avons Baptiste, Laetitia.
Oui.
Bonjour Baptiste.
Bonjour Baptiste.
Bonjour François, bonjour Laetitia.
Alors vous êtes dans votre tracteur.
Oui, c'est ça.
C'est génial. Bon, comme vous ça, êtes... vous nous écoutez sur votre radio.
C'est ça, ouais.
C'est cool. Vous êtes où? Vous êtes dans quelle région?
Alors je suis dans le département de l'Aube, à côté de la ville de Troyes.
D'accord,
parfait. Donc voilà, vous avez arrêté le tracteur. Hein,
voilà, c'est ça.
Parfait.
Vous êtes agriculteur et donc vous voulez parler des abeilles. Est-ce que vous avez des ruches près de chez vous ou même sur vos terrains?
Alors j'ai des ruches qui sont à proximité de mes parcelles avec un apiculteur donc qui en fait son métier, un apiculteur professionnel,
oui.
Qui a d'ailleurs le même statut, on va dire, qu'un agriculteur. Et en fait on travaille à la fois ensemble et puis on essaye de mettre des choses en place pour que justement profite à l'autre, parce qu'en fait ce qui s'est passé l'année dernière sur la baisse de pollen et puis la baisse de production de miel, c'est qu'on a eu un printemps tellement humide que les fleurs n'ont pas eu une production de pollen assez importante.
Et d'ailleurs, on n'a pas eu beaucoup de fruits non plus.
Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à augmenter la production. Alors que si on met des choses en place, on arrive à allier à la fois l'agriculture, qu'elle soit bio ou conventionnelle, on va dire. On arrive à éviter les baisses de mortalité, alors qui sont dues à des produits phyto. Alors on en a réduit aussi l'usage. On a amélioré nos pratiques quand même depuis quelques années. Et on arrive, grâce à nos cultures qu'on fait dans nos champs et en implantant dans les zones non cultivées des jachères fleuries, des jachères pollinisatrices qui sont bonnes pour les miels. On arrive à faire un miel en quantité et en qualité surtout.
D'accord.
Ça veut dire que vous travaillez avec un apiculteur, c'est génial ça quand même que d'avoir.
Ça va à l'encontre de ce que disait tout à l'heure Patricia, c'est-à-dire que malgré tout, dans des zones où l'on cultive, on peut avoir aujourd'hui des abeilles. Il y a moins de traitements, on va dire, néfastes pour eux et nocifs pour eux.
Voilà, on a la réglementation. On va dire environnemental qui nous a imposé des choses. Et nous, on s'est dit, on pense qu'il y a une solution pour arriver à utiliser les deux, à avoir des abeilles et qu'on puisse continuer à cultiver pour produire de la nourriture de qualité. Enfin voilà, tout ce qui va bien, respecter tout le monde, et on y arrive. Enfin, on met pas des pratiques. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain.
C'est juste une. Mais que pensez-vous du fait que, vous savez que Bruxelles est sur le point d'interdire les néonicotinoïdes, hein, ce sont des produits, des pesticides qui sont très utilisés en agriculture, qui normalement devraient être interdits en France dès 2018. Que pensez-vous de cette réglementation?
Sur la réglementation, pouvoir l'avoir vraiment étudié de très près, ce qu'on trouve dommage, c'est que ça a manqué d'enquête sur le terrain et de sélection par culture. Il y a des cultures, par exemple, sur telles que la betterave, une abeille ne va pas butiner sur une betterave. Alors on nous dit qu'il y a aussi des effets sur les années d'après. Donc nous, on a travaillé nos rotations. Et donc derrière les betteraves, on met des blés et les abeilles ne vont pas non plus sur les blés. Donc on laisse 2-3 ans avant d'avoir une culture vraiment pollinisatrice et attractive pour les abeilles. Donc c'est comme ça. Et du coup, on arrive à gommer ces effets des néonicotinoïdes. Et donc, on garde à la fois l'effet positif pour l'agriculteur, parce que ça évite de passer un insecticide en aérien qui est beaucoup, beaucoup plus dangereux pour l'abeille. Et on arrive à conserver nos abeilles sur le terrain. Parce qu'on en a besoin pour le colza, pour toutes les plantes.
Bah oui.
On en a besoin.
Mais bon, c'est aussi le problème de l'épandage de ces molécules, des risques qu'elles peuvent... Enfin, c'est des nouvelles molécules, mais qui ne sont pas sans risque. Donc, il faut le comprendre aussi.
Ah oui, bah ça, on le comprend très bien, parce que on en est aussi les premiers acteurs, on les utilise en premier.
Et puis vous les utilisez, quoi. Enfin, voilà, je veux dire, il y a aussi l'homme...
Patricia, oui. Le témoignage de Baptiste
moi,
est formidable.
Merci Baptiste, parce que franchement, ça c'est un exemple d'intelligence. Merci Baptiste, parce que vous avez raison, en coopérant, en réfléchissant, on peut trouver des solutions. Et c'est vrai que les agriculteurs sont aussi les premières victimes de ces insecticides néonicotinoïdes, comme on dit, qui sont extrêmement toxiques pour les agriculteurs, ont des problèmes de santé terribles à cause de cette utilisation. Donc on a tout intérêt à collaborer ensemble à réfléchir à la manière
de
laisser
pas...
une planète vivable à nos enfants.
Et voilà. Et Baptiste, vous représentez la génération qui va justement évoluer et travailler.
Que, sur les néonicotinoïdes, on en a beaucoup parlé l'année dernière. Oui. C'est pour ça qu'en fait, on l'a interdit parce qu'on enrobait notre semence avec. Ce qui nous évite quand même de passer deux fois en pulvérisation aérienne. Et on nous dit que ce sera moins dangereux. Mais non, c'est pas vrai. On est agriculteurs, on sait ce qu'on fait. Et enfin, voilà.
Oui, je pense qu'il faut travailler tous ensemble. Voilà.
Et je pense qu'on est... qui a manqué, c'est un petit peu de soutien aussi des apiculteurs sur ce point de vue-là, sur certaines cultures. On sait on a besoin d'études. Et enfin moi, pour me battre tous les jours pour mon métier, ce qui est un petit peu dommage, et enfin votre intervenante l'a dit, c'est que dans le message au grand public, on doit mettre en valeur ces pratiques. Et vous, en tant que média RMC, là, vous êtes là pour le faire. On a aussi besoin de vous pour communiquer sur nos pratiques, pour éviter de dire il y a les méchants agriculteurs et les gentils agriculteurs.
Non, bien sûr.
On a besoin de tout ça. Et
Baptiste, qu'est-ce que vous cultivez exactement?
Je cultive des céréales, du blé, de l'orge, des betteraves. Alors je fais de la luzerne, qui est aussi très bonne pour les abeilles. Alors ça fait du super miel de luzerne.
D'accord.
Et pour les lapins?
Pour les lapins. il y a tout ce qu'il faut pour les animaux. Enfin, honnêtement, je pense que vous pourriez faire même une émission en direct d'une exploitation.
On rêverait de faire ça, franchement. Ça serait tellement cool.
En plus, vous n'êtes pas loin de Paris, c'est bien. On va venir vous voir.
Ma porte d'exploitation est grande ouverte. J'ai des animaux, il y a tout ce qu'il faut, donc il n'y a pas de souci.
Merci Baptiste.
Merci à vous.
Et bon courage, puisque vous êtes sur votre tracteur, ça veut dire que vous travaillez.
Et oui, ça c'est clair. Mais cela dit, vous avez de la chance, il fait beau aujourd'hui, ça doit être très agréable.
Beau, pas de vent, mais conditions idéales pour travailler.
Eh bien, profitez-en.
Bon courage, merci.
Merci Baptiste.
Merci.
Et merci à Patricia Becher aussi, auteur donc de « Je veux une ruche » paru aux éditions
Larousse.
Laetitia, on va parler maintenant d'une appli mobile.
Qui s'appelle les SOS Pets. Alors Pets, c'est comme animaux de compagnie en anglais,
exactement.
Pour ceux qui ne seraient pas...
complètement bilingues.
Voilà, ils n'ont pas autre chose, bien sûr. Et nous sommes avec Olivia Augereau, qui est fondatrice de cette application. Olivia, bonjour.
Bonjour à vous.
Alors, vous êtes comportementaliste canin et propriétaire de pas mal d'animaux, je le sais, même des furets. Et avec votre mari, vous avez eu l'idée de cette application pour smartphone, donc SOS Pets. Alors, dites-nous un peu ce qu'est le service proposé par cette appli.
Alors, SOS Pets, en fait, c'est quelle que soit l'heure et le lieu en France, si vous avez un souci avec votre animal de compagnie, on vous géolocalise et on vous trouve une clinique vétérinaire ouverte. Alors ensuite, on peut vous y emmener via Google Maps ou Waze ou autre chose.
Oui.
Ou alors, si vous n'avez pas de véhicule, on vous propose des taxis animaliers.
Et là aussi, pareil, on peut être en contact direct avec le taxi animalier.
Tout à fait. Il suffit d'appuyer sur appeler et on vous met en contact avec le taxi animalier qui est ouvert au moment où vous vous connectez. Alors, vous avez également possibilité de joindre un centre anti-poison par téléphone.
Oui.
Également la possibilité de rentrer toutes les informations sur votre animal de compagnie.
Oui.
S'il est malade, s'il prend des médicaments, vous pouvez avoir toutes les informations sur votre smartphone, ce qui vous permet de voyager ou de vous déplacer partout en France sereinement.
Oui, c'est vrai qu'on oublie très souvent le nom des médicaments ou des maladies que peut avoir.
Oui, parce que parfois, certains noms de maladies sont imprononçables, on n'arrive pas à s'en souvenir.
Alors, ça veut dire qu'on est dimanche matin, il est 6h du matin, mon animal est malade, tac, on va sur SOS Pets et on sait...
Déjà, on appelle Laetitia.
Voilà, avant d'appeler Laetitia, Laetitia dit, il faut aller voir un vétérinaire en urgence. Et là, sur votre appli, on a tout de suite, même si on est dans une région qu'on ne connaît pas, où il n'y a pas son vétérinaire traitant, on a le vétérinaire qui assure les urgences, c'est ça?
Vous avez tous les vétérinaires qui sont ouverts, proches de vous, autour de vous.
Alors, il manque sur l'appli, ça c'est une critique, mais je pense que ça va évoluer, des conseils concernant les premiers soins, justement, en cas d'urgence. Est-ce que c'est prévu?
Alors, il est prévu l'ouverture du site très prochainement, sur lequel il y aura des rubriques, en effet, où on pourra mettre des conseils sur quoi faire en cas d'urgence, les premiers soins, etc. Notamment prendre la température, est-ce qu'il boit,
les premiers gestes,
etc. Hein. Voilà, exactement, tout à fait, tout ça c'est prévu.
Et ça ne sera pas dans la V2 de l'appli?
Alors si, si, tout à fait, on peut complètement la faire évoluer. Après, on a d'autres services en tête. On attend de voir un peu les réactions des utilisateurs et leurs besoins, et on la fera évoluer, bien entendu, en fonction d'eux et de leurs besoins.
Alors, j'ai téléchargé l'appli. Ça a été très rapide, très simple, et vraiment, elle est très très simple, hein, c'est vraiment là, même si on n'est pas doué comme moi, non c'est vrai, on a tout de suite la réponse. J'ai fait exprès, je demande un vétérinaire autour de moi parce que
marchait,
mon animal
etc.
est malade.
Et Olivia, ça marche aussi bien sur iPhone que sur Android?
Oui, tout à fait, les deux.
Parfait. Voilà. Eh bien, bon vent donc à SOS Pets, appli gratuite.
Merci beaucoup.
On vous conseille. Merci.
Voilà. Et surtout, si vous partez en vacances ou si vous partez en week-end, c'est vraiment une appli. Parce qu'on ne sait jamais où aller pour son animal. Et comme par hasard, il est toujours malade quand on est loin de chez soi.
Bon, ben merci beaucoup, Olivia. Laetitia, eh bien, c'est sur toutes ces bonnes choses que nous allons nous séparer. On se retrouve bien évidemment dimanche prochain, on sera là.
Voilà. Et je vous souhaite un très bon dimanche. Alors profitez-en, sortez vos animaux là, allez vous promener avec ce beau soleil et très bonne semaine, je vous embrasse.
Et dans un instant, après la météo et les infos de 8h sur RMC, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Toutes vos questions auto, 3216, auto@rmc.fr et via l'appli RMC Direct Studio. A tout de suite après la météo et les infos.
Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.